les Bosworth.
C'est typique du management à la française où on est obligé. Ça fait un peu Big Brother. C'est le manque de confiance qu'il y a en entreprise. Je crois que pour moi, c'est typiquement français. Bon, on a vu qu'il y a eu un retour en arrière derrière sur le télétravail.
Bonjour à toutes et à tous, plus que ravi. Je suis extatique de vous retrouver cet après-midi pour un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen. J'étais tellement triste de ne pas pouvoir vous accompagner à Poitiers vendredi. Ah. Manon m'a dit, c'est vraiment trop bête, tu aurais adoré la ville. Aller à Poitiers en Ouigo, c'était un peu Noël avant l'heure, me confiait-elle, encore émue par cette délocalisation, pour laquelle je tiens d'abord à vous féliciter. Mes fidèles lutins, vous avez assuré un succès d'autant plus méritoire que vous avez dû surmonter bien des épreuves pour réussir cette émission. Car oui, moi je n'ai pas eu besoin d'installer un Bossware, ces logiciels qu'utilisent les patrons pour fliquer leurs salariés à distance. J'ai un Bossware humain, Pierre Courade, dit le Judas Bigourdan. Il m'a raconté par le menu vos aventures. Je sais ainsi que la journée a fort mal commencé lorsque Cyril Lacarrière, déjà bougon par nature, a oublié son casque de scooter dans le Ouigo Paris-Bordeaux. Un message a alors été posté immédiatement sur le compte Insta de Zoom Zoom Zen annonçant que l'équipe avait perdu, je cite, « un objet de valeur » sur le Paris-Bordeaux de 10h12. La plupart de nos followers ont cru qu'il s'agissait de l'œuf de plaisir de Manon, cet accessoire vibrant qu'elle ne quitte plus depuis qu'elle l'a trouvé en case 4 de son calendrier de l'Avent coquin « Passage du désir ». Mais non, c'était donc le casque de Cyril qui semblait perdu à jamais, le plus mélodramatique et qu'il s'en est rendu compte sur le quai même de la gare alors que le train repartait.
Affreux.
Un grand moment.
Steven Spielberg avait été là, il aurait pu immortaliser cette scène comme taillée pour le grand écran où Cyril s'élance après le train comme si c'était une locomotive à vapeur des années 30 qu'on peut physiquement rattraper et voit le Ouigo repartir malgré ses protestations véhémentes, emportant avec lui son Schubert à 500€ et encore hors option. Tout aurait pu s'arrêter là. Ville de merde, journée de merde, allez hop, on plie bagage, c'était d'ailleurs exclamé Cyril, mais voilà, c'était sans compter le réseau tentaculaire de Pierre Courade qui annonce alors qu'il connaît bien un chef de bord de la ligne Atlantique. Comment le connaît-il ? Quelle est la nature exacte de leur relation ? Pour l'instant, ces détails croustillants qui intéressent toute l'équipe n'intéressent pas Cyril, qui veut juste retrouver son putain de casque. Et de fait, grâce à ce chef de bord providentiel, le précieux casque sera retrouvé. Résultat, à midi pile, dans l'établissement Oh le bistrot, tenu par la cousine du prix Goncourt, Laurent Meuvignier, parce que cette journée était dingue.
C'est fou !
Cyril oubliait sa mésaventure en se gavant de mojette, pendant que Pierre Courade éclusait le vin local, le Haut Poitou, à même le pichet. À lui, la première personne de l'histoire a présenté le Zoom Zoom test bourré. Zoom Zoom Zen, retour à Paris. Retour au sérieux, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Et bonjour Clément Pourré.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Clément, vous êtes journaliste spécialiste des questions de technologie. Vous publiez régulièrement vos enquêtes sur la surveillance et l'IA dans Mediapart. Et aujourd'hui, c'est un livre que vous nous présentez. Son titre, Les nouveaux contremaîtres, enquête sur la surveillance au travail à l'heure de l'IA. C'est sorti aux éditions des Équateurs, un livre dans lequel vous nous racontez donc l'essor des Bossware, ces logiciels qui espionnent véritablement les salariés. C'est le phénomène sur lequel on a choisi de zoomer cet après-midi. Vous allez nous expliquer ça. Juste le temps de vous présenter ceux dont je suis si fier. J'étais anxieux vendredi, vous savez, comme un père qui lâche pour la première fois ses enfants sur un vélo après avoir enlevé les petites roues. Les savoir comme ça, seuls, loin de moi, presque livrés à eux-mêmes, vu que le rédacteur en chef était obnubilé par la perte de son casque et que le rédacteur en chef adjoint était ivre. Et pourtant, ils ne sont pas tombés. Manon Mariani, Quentin Lui, bonjour.
Ah. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Si vous aviez vu la tête de Cyril quand il a capté qu'il avait oublié son casque.
Très bien, et la tête de Pierre en revenant du resto, oui, de toute façon.
Mais ça veut dire que vous nous avez écoutés.
Ah ben je vous ai écouté. Vous étiez très bon et le public était très très
chaud. Ah oui, en feu.
Votre public.
Les poids de vin.
À vos côtés, Clément, c'est elle qui a tenu la baraque à Poitiers vendredi. Et c'est d'autant plus étonnant qu'au moment de monter dans l'Ouigo, elle ne connaissait pas l'existence même de Poitiers. Mais son passé au cours Florent l'a aidé à simuler l'enthousiasme et le public n'y a vu que du feu. Il paraît même, Manon, qu'on vous a arrêté sur le quai de la gare pour vous demander si c'était vraiment vous, la Marianoche.
Oui,
grand moment.
Les gens m'appellent la Marianoche, j'entends, que voulez-vous.
Premier degré, c'est vous la Marianoche? J'adore.
Et vous étiez fière de dire oui, c'est moi.
Bien sûr, évidemment, mais moi j'aime bien ce surnom.
Mais nous aussi, on l'adore. Manon, dans votre pièce jointe cet après-midi.
Une émission que je qualifierais d'émission la plus gênante du PAF depuis des années maintenant, un mix de patrons et de ses salariés sous fond de moustaches et de perruques. C'est cringe, mais ça marche.
J'ai pas deviné ce que c'était là.
Une émission d'M6, vous voyez pas? Bon.
Ah oui, je crois que je vois. Face à vous, Clément, que lui arrive-t-il en délocalisation? Selon sa campagne, en tout cas, il ne faudrait pas qu'il y en ait trop, car à chaque fois, il se rapproche un peu plus de Cyril. Les images de leur sensuelle complicité cité dans une voiture à Marseille avait déjà enflammé les réseaux sociaux en septembre dernier. Le dernier cliché d'eux dans le train du retour de Poitiers qui les montre quasiment enlacés, prêts à quitter une bonne fois pour toutes les rivages trop tranquilles de l'hétérosexualité, est une nouvelle étape dans cette bromance dérangeante. Quentin, que se passe-t-il entre vous et notre rédacteur en chef, enfin ?
Je sais pas. Qu'est-ce qui nous arrive, Cyril ?
Je sais pas, j'ai pas compris que vous ne m'accompagniez pas acheter un kebab.
Ah oui, non. Ah oui,
ça restera comme ça une blessure.
En fait. C'est la limite de votre bromance.
Peut-être qu'on peut s'excuser auprès des passagers de la voiture 6, parce qu'en arrivant à Paris, Cyril a fait un petit cadeau à toute la rame.
Ah oui,
voilà. Voilà, on peut le dire.
Pas ce kebab.
Qui était en lien avec le kebab et certainement les mojettes du midi.
Oh mon Dieu,
attention, Quentin, là. Les mojettes
sur une radio publique.
Des petits haricots.
France Inter, première radio de France.
Effectivement. Quentin, retour à Paris ce matin pour vous, l'occasion de faire réagir les passants à notre phénomène du jour, les bossware.
Et on a très bien identifié le problème dans la rue. Ton laptop est aujourd'hui quasiment relié à ton boss pendant ton jour de télétravail. Alors, coup d'œil sur la rentabilité ou obsession de vouloir tout contrôler quand on a un petit pouvoir hiérarchique sur l'autre. Qu'est-ce que ça peut entraîner comme déviance ? Vos réponses, vos témoignages, complètement à la rue, c'est dans la prochaine demi-heure.
Vers 16h30, il sera temps de répondre à la question « Cyril Lacarrière est-il vraiment le pire manager du monde ?» La réponse, étonnamment, sera non. Puisque le Zoom Zoom Test sera consacré aujourd'hui à ces patrons qui ont fait bien pire qu'espionner leurs salariés. Juste avant 17h, Marion Mézard Dorian nous rejoindra pour son billet d'humeur. Après 17h, restez avec nous, rien ne va plus au Louvre. Le plus célèbre musée parisien est en grève aujourd'hui, alors qu'on n'a pas toujours, on n'a toujours pas retrouvé les bijoux qu'il faut rendre et pas garder, comme le chantait Manon. On zoomera avec un spécialiste sur la farce tragicomique qui se joue au Louvre. Mais d'abord, Clément Pourret zoome donc aujourd'hui avec vous sur ces petits logiciels qui permettent aux patrons d'espionner tranquillement leurs salariés. Déjà, ces bossware, est-ce que c'est une conséquence directe de la généralisation du télétravail ?
Alors, oui et non. Réponse en deux temps. Oui, parce que le bossoir, on commence, nous, à en parler collectivement pendant le Covid, quand on se retrouve tous en télétravail. Je dis « on », disons les travailleurs intellectuels qui sont derrière des ordinateurs, mais en fait, ça existe depuis très longtemps. C'est consécutif même de l'organisation du travail depuis le début. Quand je dis le début, c'est pas l'image qu'on a de l'usine, mais même la plantation et le début du capitalisme, quoi.
Ça remonte donc très loin, mais ça s'est intensifié pendant le...
Ça s'est intensifié, on voit des hausses de... Par exemple, les chiffres à l'époque, ce qu'on dit, c'est qu'on aime les entreprises qui fabriquent ces bossware, ont multiplié par deux leur vente de logiciels.
D'accord, ça en dit beaucoup. Quelle journée il a vécu vendredi à Poitiers ? Déjà, à la base, c'était émouvant pour lui de retrouver cette ville où, il y a 800 ans, son aïeul Charles Martel avait fait mordre la poussière à l'envahisseur. Et puis, il y a eu cette histoire de casse. Heureusement, la suite n'a été qu'un enchaînement de petits bonheurs, découverte de la mojette, du délicieux farci du Poitou.
Mais j'ai pas mangé ça, moi.
Ah, bah,
ah
vous l'avez pas. Non, côte de porc. C'était... Mais qui a mangé du farci du Poitou ?
Non, mais ça avait mangé un dessert.
On m'en a inventé les mérites. Ouais. Alors
quand,
que.
Comment vous avez obtenu
justement, quand la tenancière du restaurant, la cueillante Sylvie, lui a proposé de découvrir son célèbre puits d'amour, Cyril a décliné poliment, expliquant à Sylvie qu'il n'avait pas la tête à ça, qu'il avait une émission à gérer et qu'il était fidèle. C'est seulement quand il a compris que c'était un dessert qu'il a accepté d'y goûter.
Ah, oui, avec Alicia Vulot, notre c'était réalisatrice. Bon, on a pris un chacun, c'était délicieux.
Mais c'était une glace ?
Non, non, il y avait de la mascarpone, il y avait du crumble, c'était délicieux.
Calvados.
Et du calva, effectivement.
C'est c'était orange, en plus.
Quelle belle association.
Le calva, c'est orange.
Cyril, maintenant que vous êtes remis de vos émotions,
d'où ça sort, oui.
Racontez-nous, effectivement, les bossware, d'où ça sort.
Imaginez le monde du travail post-Covid. Les employés sont chez eux, en télétravail. Le patron, lui, est seul dans son bureau et il se pose des questions. Est-ce que ses équipes travaillent vraiment ? Il est 11h30. Est-ce que Quentin est vraiment sur le terrain ou en train de sortir de sa sieste post-petit-déj ? Le lien de confiance se fissure et ça ne sera pas aidé par un kebab. Et voilà que miracle, la technologie peut aider ce patron. Bienvenue dans le monde des bossware, les logiciels espions pour les patrons. Si le fait d'être espionné, tenter d'espionner ses salariés n'est pas nouveau, c'est avec l'explosion du télétravail, on a commencé à le dire, à partir de 2020 que le phénomène prend de l'ampleur. Les bossware arrivent sur le marché, mais on les vend comme des outils de gestion de la productivité. Habile. Pour l'employeur, c'est de l'efficacité. Pour l'employé, c'est purement et simplement de l'espionnage.
Mais dans les faits, Cyril, ça ressemble à quoi ?
Le bossware, au départ, c'est comme une caméra de surveillance, mais invisible, une sorte de flicage digital. Le logiciel enregistre tout, vos heures de connexion, votre rythme de frappe au travail, ça s'appelle le keystroke, les sites web que vous visitez même, certains permettent même de prendre des captures d'écran de votre bureau ou d'activer la webcam pour vérifier que vous êtes bien devant votre poste. C'est comme si on appliquait le taylorisme mais à la maison et les employés malins vont trouver des astuces pour tromper les logiciels et la CNIL aussi va y mettre son nez, tant mieux. La surveillance doit être proportionnée et l'employé doit être informé. Alors d'où ça sort le bossware, les bossware ? Eh bien d'une peur panique de l'inaction. Et ce n'est que le début de notre petite histoire.
Merci Cyril. Clément Pourret, première question que posait Cyril. Le bossware, c'est de l'espionnage à proprement parler ou c'est un outil de travail finalement comme un autre pour vérifier la productivité des employés ?
C'est un peu toute la question. C'est-à-dire que les bossware, quand on en parle dans le champ de la recherche, dans le champ médiatique, c'est vraiment les outils utilisés pour fliquer les salariés. C'est pensé comme ça, c'est dès la conception, on veut en faire un outil de surveillance. Et souvent, c'est illégal, d'ailleurs. Ceci étant dit, en fait, il y a toute une part de technologies qui sont liées au contrôle, à l'organisation du travail, qui vont servir à contrôler les travailleurs. C'est flou, on ne sait
flou.
Pas trop.
En fait, ils jouent sur ce flou-là. Exactement. Parce que, techniquement, espionner son salarié directement, c'est illégal.
Oui.
Installer. Alors, comment ça se passe? Parce qu'on dit, la CNIL dit, la surveillance doit être proportionnée et l'employé doit être informé. Est-ce que c'est vraiment le cas dans tous les cas? Est-ce que l'employé est toujours informé?
Alors, non, l'employé n'est pas toujours informé. La CNIL, d'ailleurs, a des difficultés là-dessus. Il y a peu d'employés à la CNIL, ce n'est pas une institution extrêmement dotée. Il y a des milliers d'entreprises en France, donc déjà, il y a cette difficulté-là. L'employé n'est pas toujours informé, et surtout, c'est qu'il y a l'entreprise a quand même une légitimité à contrôler le travail. Si, par exemple, vous arrivez au bureau, vous pointez. L'entreprise vous surveille. Elle est là pour vérifier que vous faites le temps de travail. Si l'entreprise regarde ses pointages, pour vérifier avec qui vous déjeunez, si vous allez dans un local syndical, j'en sais rien, des choses comme ça, là on tombe dans la surveillance. Donc il y a toujours une question de flou, de est-ce que c'est justifié ou pas, de proportionnalité, un peu au cas par cas, avec des choses où par contre où c'est assez clairement illégal. Vous parliez de capture d'écran tout à l'heure. Capturer l'écran,
ça, c'est illégal.
On n'a pas le droit.
J'imagine que dans les usines, par exemple, on a toujours regardé, on imagine ces bâtiments un peu avec des verrières et où il y avait des balcons, on imagine bien que les responsables regardaient au-dessus de la chaîne de travail. C'était déjà de la surveillance.
C'était déjà de la surveillance.
Et c'était autorisé.
Et c'était autorisé. un exemple qui marche bien, c'est celui d'Amazon. Amazon traque tout. C'est-à-dire que chaque colis Amazon traque, c'est où il est à tel moment. Et c'est quelque chose qui est assez dur à faire, par ailleurs, technologiquement, hein, d'être capable de savoir où un colis qui est parti du bout du monde, comment il arrive. Au même moment, il traque les salariés. Par exemple, la CNIL, là-dessus, elle a pris une décision. Il y a une amende, je crois, de 29 millions d'euros. Il y a un recours, donc Amazon n'est pas encore officiellement condamné. En expliquant que l'utilisation de ces données-là, parce que chaque fois que Amazon scanne un colis, il y a aussi quelqu'un qui le scanne, donc on sait qui a manipulé le truc, pour surveiller et intensifier les salariés, c'était illégal. Donc c'est toujours un truc de jauger jusqu'où on va et de un peu au cas par cas, quoi.
Zoom, zoom, zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Zoom sur les bossware, ces logiciels qui permettent aux employeurs de savoir ce que vous faites pendant votre travail et votre télétravail. On est avec le journaliste Clément Pourret qui a enquêté justement sur le sujet. Clément, déjà si mon employeur se rend compte que je m'achète un billet d'avion, que je surfe sur les réseaux sociaux pendant mes heures de télétravail, même si le travail est fait, est-ce que je peux être soumis à des sanctions?
C'est une bonne question, moi je dirais que non. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'usage de la surveillance aujourd'hui ne sert pas tant à sanctionner les gens. Il sert à les faire travailler plus. On n'a pas besoin de les sanctionner. Il suffit que je vous donne l'impression que vous êtes surveillé, vous allez travailler plus vite, plus efficacement. On va sanctionner souvent, en vrai, ces logiciels-là quand on a un problème déjà spécifique avec le salarié.
D'accord.
Par exemple, je suis votre employeur, j'ai un problème avec vous. Je vais chercher dans mes petits fichiers internet et je vais trouver des...
Monter un petit dossier contre
vous. Exactement.
Est-ce qu'ils peuvent être installés dans des ordinateurs ou dans des téléphones personnels qui n'appartiennent pas à l'entreprise?
C'est toujours pareil, légalement non, potentiellement oui, puis surtout qu'on a une confusion en fait entre le personnel et le professionnel. Enfin, plein de salariés en fait qui
utilisent
leur
ordinateur personnel. Et c'est juste un logiciel, c'est un truc qu'on peut télécharger, on reçoit un mail de l'entreprise et en fait on le télécharge. Comment ça se passe en fait?
Souvent c'est les entreprises qui les imposent, parfois pour des raisons de sécurité. On va dire par exemple on va surveiller vos communications pour être sûr que vous téléchargez pas un virus, quelque chose comme ça. Télécharger un virus, quelque chose comme ça, et on va aussi vous forcer à les utiliser. Ça peut être aussi juste l'environnement numérique de travail sur lequel vous connectez, Teams, des choses comme ça qui vont ensuite servir à vous surveiller.
Mais est-ce que c'est fait avant? Par exemple, moi, Radio France m'a donné un ordinateur portable pour que je travaille à l'extérieur.
Mais ça marche pas
trop. Est-ce qu'avant de me le donner, il est équipé de ce logiciel?
Alors,
pas forcément pas forcément à Radio France, mais voilà, en règle générale, quand on fournit le matériel aux salariés, est-ce qu'il peut être équipé de ce logiciel?
Oui, l'employeur va souvent, quand il fournit un appareil téléphonique, quelque chose, il y a déjà des choses préinstallées. Il y a des services d'ailleurs informatiques. Et par ailleurs, c'est aussi normal, une entreprise, elle contrôle son parc informatique, il y a des enjeux de sécurité de la donnée, etc. En fait, souvent, ça se situe dans cette question sécurité, préinstallation, organisation du travail informatique et surveillance, et les deux peuvent être un peu liés. Et moi, plein de sources dans le bouquin, typiquement, c'est des gens en fait qui ont appris ça parce qu'ils travaillaient dans les services informatiques et que d'un coup ils voyaient
ils découvrent. Que
leur employeur leur forçait d'installer ça.
Alors en tout cas, il n'y a pas de rébellion massive contre les bossware. Pour comprendre l'acceptation de ces logiciels dans notre vie quotidienne, vous parlez dans votre livre, Les Nouveaux Contremaîtres, de l'effet cliqué. De quoi il s'agit?
L'effet cliquet, donc c'est en technologie, c'est l'idée quand on utilise un nouveau logiciel, une nouvelle pratique technologique, à partir du moment où elle est suffisamment généralisée, il n'y a pas de retour en arrière. Mmh. On a vu ça par exemple avec les caméras, au début sur les caméras de surveillance, tout le monde râlait, puis maintenant c'est dans l'espace public, ça ne sert toujours pas à grand chose en vrai, mais on continue à les employer. Quoi. Et c'est la même chose, les bossware sont arrivés, donc on s'est habitué en fait à ces conditions de surveillance.
On sait à peu près combien d'entreprises françaises les utilisent aujourd'hui ?
Il y a des chiffres, les plus récents c'est de l'OCDE en février 2025 si je ne me trompe pas, qui disait que 70% des entreprises en France utilisaient des logiciels de surveillance. Après,
c'est énorme.
Il est possible que même autour de nous des gens soient entre guillemets surveillés.
Bah, en sachant que la catégorie en fait, logiciel de surveillance, elle est un peu plus large que les bossware hyper intrusifs qui vont tout contrôler. Moi, si dans la par exemple, contrôler le temps de travail des gens, c'est déjà un logiciel de surveillance. Donc il y a probablement moins, et ces études aussi, elles concernent les grandes entreprises. Là, on a un flou, c'est sur les TPE et les PME, où en fait, on ne sait pas quelles sont la réalité des pratiques de surveillance pour ces salariés-là.
Et est-ce qu'il y a des bossware qui peuvent nous enregistrer, voire nous filmer avec la webcam à notre insu ?
Alors, ça existe. Notamment, il y a un logiciel qui s'appelle Time Doctor qui fait ça.
Time Doctor ?
Un des leaders du secteur. Moi, un logiciel que j'aime beaucoup, c'est Daze. C'est un logiciel qui se connecte, alors qui n'est pas utilisé en France, à ma connaissance, qui se connecte avec les mondes connectés des salariés et qui vérifie qu'ils dorment assez bien pour être assez productif. Ça vous
génial,
donne
je sais pas.
Ah non, mais je parle en tant que patron. Non, en tout cas, c'est étonnant que la technologie puisse... Mais qu'ils aient pensé à faire ça.
C'est un énorme enjeu. La même chose sur la Femtech, c'est tous les logiciels utilisés, par exemple, pour les questions de règles, tout ça. Il y a des connexions qui commencent à s'établir entre les employeurs et les connexions, les données de santé pour vérifier.
Ça pose problème, ça, Manon.
Oui. Vous savez où j'en suis dans mon cycle ?
Ah, pas du tout. Je vous pose même pas la question, je pensais que vous vouliez réagir. Si Cyril avait installé un bossware sur le téléphone de Quentin, il saurait que ce dernier lui ment. Depuis plusieurs années maintenant. Non, il n'est pas sur le terrain à 8h du matin pour peaufiner son micro-trottoir, parce que le logiciel lui indiquerait que le réveil de Quentin est réglé à 10h45 et que la première page qu'il consulte n'est pas lemonde.fr, comme il lui avait juré, mais Karting News, le site de référence de l'actualité du kart. À moins que Cyril sache déjà tout ça et qu'il ait juste choisi de fermer les yeux, rapport à cette bromance malsaine qui... Bref, Quentin, racontez-nous, les passants que vous avez croisés, ils connaissaient l'existence de ces bossware.
Moyen, nous sommes le dimanche 14 décembre, donc hier à 16h40, je marche sur un boulevard dans l'Est parisien, je porte un bonnet noir pour m'abriter des 6 degrés que m'offre la rue, qui est en quelque sorte mon poste de travail, si on y réfléchit bien. Alors que j'enchaîne quelques échecs et refus d'obtempérer à mon micro, je vois ces deux potes, la petite trentaine, qui me lancent des regards, ils s'approchent.
Vous ne savez pas Quentin, lui, par hasard ?
Eh ben si, les gars !
Salut !
Bonjour ! Comment ça va ?
Ça va et toi ?
Ça va, ça galère un peu. Il fait pas chaud.
Et en plus, je pensais pas que tu bossais le dimanche.
Je bosse tous les jours.
Mathieu Noël n'a aucune race.
Ah, c'est-à-dire qu'en le remplaçant à Poitiers, j'ai dû rattraper un peu sur le week-end, mais je le connais, il va me dédommager sans problème.
Évidemment.
Allez, on revient à Jean qui bosse dans le domaine bancaire. Il découvre le thème du jour. Quand les boss nous surveillent, est-ce qu'il les a vus arriver ? C'est...
Les boss wears. À titre perso, non. J'avoue que dans la banque dans laquelle je travaille, on va dire qu'il y a une certaine liberté. Néanmoins, j'ai entendu parler du fait qu'on était quand même monitoré. Être monitoré, c'est quand on va enregistrer, on va dire, la quantité de travail fourni, que ce soit justement le nombre de clics. Je sais que la petite phobie, on va dire, de mes collègues en télétravail quand ils sont pas très actifs, c'est de paraître en orange sur Teams et plus en vert. Ce que ça veut dire que t'as pas touché ta souris depuis un moment.
Mais ça, c'est déjà une forme de surveillance. Wow.
C'est vrai. C'est vrai, je sais, j'ai déjà entendu des managers. Est-ce que ça, on peut activer cette option sur le logiciel où, à partir du moment où la personne repasse en vert, bah, on a une notification.
Et il me dit que tout ça ne lui inspire rien de bon.
Je parle vraiment à titre perso, mais moi j'ai un contrat cadre, donc théoriquement je suis censé pouvoir organiser ma journée comme je veux. Donc si pendant une heure, quelle qu'elle soit dans la journée, j'ai envie de pas bosser et donc de pas être sur mon ordi, normalement ça me regarde. Et c'est pas forcément très équitable et pas forcément très sain.
Il me confie que le fait d'être monitoré, ça j'ai un mot que j'ai appris, capte même les sites qu'il visite, Cyril en parlait. Je lui demande sur quel genre de site il va.
Uniquement les sites dédiés au monde professionnel, promis. Et parfois un peu Netflix quand je suis en télétravail, c'est pour avoir un bruit de fond.
Mais oui. Zoom Zen, tu seras pas emmerdé. Attends, tu me montes ton portable ? Ah non !
Je suis un très gros fidèle de Zoom Zoom Zen.
Ah mais vous êtes en train d'écouter la démocratie gazeuse. Très bonne émission.
Et pourtant, j'ai pas 75 ans, je suis pas prof. Donc comme quoi, j'aime faire mentir les statistiques également.
Il aime faire mentir les statistiques et il est très drôle. Ma deuxième rencontre est une bilingue. Et vois de quoi on parle.
Les boss wearers. C'est typique du management à la française où on est obligé de contrôler ses salariés et de justifier son travail. Ça fait un peu, ouais, Big Brother, c'est le manque de confiance qu'il y a en entreprise. Je crois que pour moi, c'est typiquement français. Bon, on a vu qu'il y a eu un retour en arrière derrière sur le télétravail.
Elle n'y est pas directement confrontée, mais...
Non, mais je sais, j'ai toujours un pote qui me dit, ouais, je suis connecté sur Teams pour mettre la petite pastille verte. Et en fait, je suis dans ma cuisine en train de faire une quiche ou... Mais alors, ça veut pas. Là, c'est donner raison du coup à ceux qui installent le logiciel. Mais
ce que j'allais dire, c'est que est-ce qu'ils ont pas raison de contrôler un peu s'il y en a qui font des quiches?
Non, parce que c'est pas parce que pendant deux heures tu fais autre chose, mais que derrière t'as eu une productivité pendant trois heures d'affilée, alors qu'au travail t'aurais pas forcément eu cette productivité, t'aurais été dans l'oisiveté pendant plusieurs heures.
Voilà, à scroller sur Vinted ou à regarder des bandes annonces. Hein, Manon Mariani, tout va bien. En fait, en réponse à cette histoire de culture de flicage à la française, elle m'oppose forcément des modèles du nord de l'Europe, la Finlande, la Norvège.
Pour parler à des gens qui sont en Suède, il y a quand même une confiance employeur-employé qui est un peu plus renforcée. En France, quand on part à 17h, on va nous dire « t'as pris un RTT » ou « on va te souhaiter une bonne après-midi ». Alors qu'en Suède, c'est pas ça. On n'a pas forcément à justifier le fait de partir plus tôt. Si tu pars plus tôt, c'est que ton taf, il est fait. En France, c'est vrai qu'il y a quand même cette suspicion. Si tu pars plus tôt, c'est que tu voles quelque part ton employeur alors que...
Alors qu'en fait, tu fais juste bien ton taf. Et c'est vrai qu'en France, il y a cet héritage du pointage qui fait bien boomer aujourd'hui. Ma dernière rencontre, cesser à notre mot compliqué à prononcer.
Les bosswares.
Ça, c'est un bel accent.
Ouais, je suis franco-américaine. Ok. D'accord, oui, ça fait sens.
Ouais, mec, c'est Anne-Cyril. Cyril Lacarrière qui déteste cette tournure en français, mais elle a le droit à cette petite erreur. Pour elle, il faut se méfier.
Oui, non, c'est sûr. Enfin, on est de plus en plus dans une ère digitale. Il faut s'adapter. Je pense que les gens ne savent pas trop forcément ce qui se passe. Et c'est sûr, je pense qu'on est très vulnérable dans le monde du travail.
Est-ce qu'il y a une mentalité différente du salarié et de la subordination aux US ou en France?
Je pense qu'en général, les gens se sentent très fliqués aux US, oui.
Ouais. Mais ils l'acceptent et ils vont bosser.
You gotta work, you gotta survive. It is what it is.
Je reviens sur le mot vulnérable employé par Juliette. Tout se digitalise, tout va vite et on n'a pas forcément conscience de ce qui se joue derrière. On arrive dans un monde où les salariés commencent à douter, pas parce qu'ils travaillent mal, mais parce qu'ils se sentent de moins en moins libres et qu'un salarié pas libre, ça n'innove pas, ça ne crée pas, ça ne progresse pas en toute sérénité dans l'entreprise. Donc là, on a une ironie totale. À trop vouloir contrôler leurs équipes, les boîtes finissent par freiner exactement ce qu'elles attendent d'elles.
Merci Quentin. Clément Pourret, est-ce qu'on n'est pas en train de créer une génération de salariés qui passe finalement plus de temps à justifier son travail qu'à le faire?
Si. Non, en vrai, enfin, votre micro-trottoir était hyper intéressant parce que ça pointe plein de choses, et notamment ce que vous dites, ce que racontent les gens, que finalement ils travaillent pas exactement comme leur patron attend qu'ils travaillent. C'est-à-dire qu'ils esquivent, machin, etc. En vrai, les gens travaillent mieux quand ils sont autonomes, et ça, c'est quand même un truc que dit toute la recherche. Que si je vous dis comment vous organisez votre travail, vous ferez mieux que les autres. Comment votre patron vous le prescrit, que ce qu'on vous dit de faire, en gros. Donc l'autonomie, c'est un vrai vecteur. Et donc ce truc de contrôle, en effet, ça, moi je pense que ça crée... Il n'y a pas de phénomène de génération, parce que c'est là depuis très très longtemps. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est des stratégies pour esquiver, etc., des manières de se réapproprier, en fait, l'organisation du travail.
C'est fou, ce truc de Teams dont tout le monde parle.
Oui.
La pastille orange.
La pastille orange et tout ça, là.
C'est-à-dire que quand on n'est pas assez actif, on passe en mode orange, et ça fait moyen quand on est en télétravail, j'imagine.
Bah, c'est l'exemple typique de tous ces logiciels qui, à la base, ne sont pas des logiciels de surveillance. Teams, ça sert à s'organiser quand on est à distance, qui deviennent des technologies de surveillance, en fait.
Est-ce qu'il y a des logiciels aujourd'hui pour contrer, justement, ces bossware? Je suppose que ça a dû être
pour faire semblant de travailler, ouais.
Il y en a quelques-uns, je n'ai pas les références exactes en tête, mais oui, il y a des gens qui ont développé des petits logiciels pour bouger la souris automatiquement. Il y a toute une culture, de résistance, mais depuis très longtemps, toujours.
Mais déjà, qui les crée, ces bossware? Ça vient d'où, des États-Unis?
Alors, c'est un peu différent. Souvent, les boîtes de tech, on a cette image des grosses boîtes américaines, etc. Il y a des Américains, il y a des grosses boîtes dans la boucle, mais en fait, le secteur des bossware, c'est ce qu'on appelle les little tech. Donc c'est 600 entreprises, à peu près des petites start-up, des trucs très spécialisés, hyper éclatés. Et c'est aussi une difficulté qu'on a, c'est qu'on n'a pas un adversaire, entre guillemets, une entreprise identifiée à aller questionner. Quoi.
On devrait s'inspirer des pays du Nord, on parlait de la Finlande, de la Suède. Est-ce qu'il y a quelque chose à aller chercher en France de cette culture du non-flicage?
Alors je ne sais pas si les pays du Nord en particulier, mais oui, cette culture de non-flicage, c'est sûr, à la fois parce que il y a une question de productivité, mais il y a aussi une question de ça fait quoi aux gens, en fait, la surveillance. Ce qu'on voit, par exemple, chez Amazon, on en parlait tout à l'heure, il y a plus de 50% des salariés qui disent qu'ils sont en souffrance physique à cause de la surveillance et en souffrance psychologique. Et c'est vrai pour tous les logiciels de surveillance. Les routiers, par exemple, historiquement, c'est les plus surveillés, on les traque avec des GPS, des choses comme ça. C'est une des professions où il y a le plus de morts au travail, où il y a le plus de... d'accidents graves, etc. Donc en fait, il y a aussi un enjeu au-delà du travail, de santé publique, de sécurité des salariés, etc. Quoi.
Et les routiers, ils avaient ce disque qui contrôlait la vitesse, c'est ça ?
Il y avait, historiquement, il y a des fiches où on pointait, qui ont été remplacées après par des GPS. Et à l'époque, d'ailleurs, les routiers trichaient.
Ouais.
Ils mettaient n'importe quoi, et en fait, quand on a commencé à surveiller, ils ont eu plus d'accidents.
Les routiers trichaient, mais n'oublions jamais que les routiers sont sympas.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Oui, c'est vrai que si la SNCF n'avait pas retrouvé son casque Schubert à 500 euros, Cyril aurait probablement licencié Manon et Quentin pour, je le cite, se passer les nerfs. Cependant,
il était dans ce mood-là,
j'ai bien compris. Cependant, n'allons pas croire que Cyril soit le pire patron qui existe. Non. Comparé à ceux que nous allons évoquer maintenant, Cyril, c'est le Christophe André du management. Jouons au Zoom Zoom Test spécial patrons qui sont allés trop loin. Et comme je sais que vous aimez le dépaysement, mais que vous êtes resté un peu sur votre faim à Poitiers, la preuve, Cyril a été obligé de prendre un gros kebab sauce blanche dans le train du retour, je vous propose une destination encore plus exotique que Poitiers, Singapour. Et là, on a vraiment l'impression d'être transporté au cœur du marché traditionnel de Bougie Street, le plus célèbre de Singapour. On peut presque sentir le fumet délicieux des chili de crabe flottant entre les échoppes. Tout ça grâce à cette musique merveilleuse et polyvalente qu'on appelle dans la base d'Inter musique asiatique traditionnelle libre de droit, qui, comme son nom l'indique, permet d'illustrer sans se ruiner tout le continent asiatique. Nous voici donc à Singapour, donc en 2008. En pleine crise des subprimes, un patron va licencier la moitié de son effectif d'une façon plutôt originale. Selon vous, laquelle ? Il va profiter d'un week-end pour faire changer les serrures des bureaux des salariés concernés avec un message sur la porte « On vous souhaite le meilleur ». Il va déménager les locaux de la société en une nuit en ne communiquant la nouvelle adresse qu'aux heureux élus.
C'est bon,
c'est pas mal ça.
Il va profiter d'un exercice incendie pour désactiver les badges des futurs licenciés qui ne pourront donc pas rejoindre leur bureau.
Oh, c'est horrible.
S'il y a le petit message, c'est bien.
Qu'une fois votre perfidie va vous aider, Manon, vous dites la réponse. C'est bon, pendant un exercice incendie, ça serait aussi vicieux que ça.
Oui, j'imagine. Non, c'est une bonne réponse. Ah oui,
ah, c'est fou. Oui. Elle aime ça en plus.
Vous comprenez maintenant pourquoi je refuse systématiquement de quitter mon poste en cas d'alerte incendie. Déjà parce que le responsable.
Jusqu'au jour où on aura en vrai.
Déjà parce que le responsable évacuation incendie de notre étage, c'est Pierre Courade, qui n'a accepté cette mission que parce qu'il ne sait pas dire non à un pompier. Ensuite, parce qu'à l'heure où le service public se serre la ceinture, je me dis qu'Adèle Vendrette, dans un mouvement d'humeur, pourrait s'inspirer de cette belle stratégie managériale singapourienne. Un matin, les 5000 employés se retrouvent donc au pied de l'immeuble et entendent ce message de la direction. Chers employés, c'est avec émotion que je vous annonce que pour beaucoup d'entre vous, c'était la dernière évacuation. À cause de la crise, nous nous séparons d'environ la moitié des effectifs. En rentrant, si votre badge ne fonctionne pas, c'est que vous faites partie de cette moitié et vos affaires vous seront renvoyées par courrier demain. Nous avons agi de la sorte, pour éviter de remplir les boîtes aux lettres de mails d'adieu par milliers et aussi pour éviter des disputes dans les locaux. Voilà. Nous vous souhaitons une bonne poursuite de carrière. S'il vous plaît, entrez et tentez votre chance.
Oh non !
Entrez et tentez votre chance. C'est comme quoi la gamification est vraiment partout, même dans le licenciement. Mais attention, on quitte Singapour, direction Taïwan.
Oh.
Et oui, c'est toujours l'Asie. Nous sommes chez Foxconn, le plus gros fabricant mondial de matériel informatique qui produit notamment l'iPhone d'Apple. Plusieurs ONG ont déjà tiré la sonnette d'alarme. Les cadences de travail sont infernales chez Foxconn et débouchent même sur une vague de suicides des salariés. D'après vous, Manon, Quentin, quelle idée de génie ont eu les RH de Foxconn pour accompagner ces salariés en souffrance ? Ils ont fait signer à tous les salariés une lettre de décharge de responsabilité en cas de décès. Ils ont généreusement offert un iPhone à chaque membre de la famille du défunt. Où ils ont intenté un procès aux familles des défunts pour désordre industriel.
C'est. Il y en a plusieurs ?
Non.
C'est,
vous êtes sûr de vous, Quentin. J'aime quand vous êtes comme ça.
À 100%.
Sûr de vous, à 100%. Manon, vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes pas sûr et c'est pourtant la bonne réponse. Bien joué, Manon, effectivement. L'entreprise Foxconn ne peut être tenue responsable si je décide de me suicider. Signez-la. Voilà un management moderne. Pensez-y la prochaine fois que vous voudrez changer votre iPhone. Mais notre balade en Asie n'a que trop duré. Je vous propose de nous ressourcer dans ce beau pays où tous les salariés sont heureux et bien traités, la France. Nous sommes en 2011 et une PME décide de se séparer d'un de ses salariés, un certain Monsieur T, embauché quelques mois auparavant en tant que consultant. D'après vous, pourquoi Monsieur T a-t-il été viré ? Parce qu'il rendait tous ses dossiers en avance, ce qui mettait trop la pression à ses collègues. Parce qu'il faisait trop rire ses collègues, ce qui affectait leur productivité. Ou parce qu'au contraire, il a été licencié parce qu'il n'était pas assez fun.
B.
C. Pas assez fun.
Il faisait rire tout le monde, c'est drôle ça.
Il faisait rire tout le monde, la productivité générale décroissait. C'est intelligent, Quentin. Mais Ce n'est toujours pas la bonne réponse. Bonne réponse de Manon Marini.
Incroyable.
Oui, alors dans le courrier officiel,
sans tricher,
dans le courrier officiel qui lui a été adressé, Monsieur T découvrait qu'il était licencié pour, je cite, son désalignement culturel vis-à-vis de l'entreprise et ses valeurs fun and pro. En effet, Monsieur T se serait permis peu avant son licenciement de critiquer les pots de fin de semaine organisés par ses supérieurs, engendrant selon lui une alcoolisation excessive de ses collègues, alcoolisation encouragée par la direction. Il aurait d'ailleurs sollicité un rendez-vous avec la responsable de ces pots de fin de semaine, mais les explications de Manon M, selon lesquelles c'était pas grave parce que si tout le monde utilisait bien le verre magique de Lolo Côté, on pouvait boire jusqu'à 10 verres de Porto sans problème.
15.
Ne l'avait pas convaincu. Il a donc contesté son licenciement. Et d'après vous, que s'est-il passé alors? Le mec, il a quand même contesté son licenciement. Hein, viré parce que t'es pas fun. Bon. L'entreprise a été condamnée à verser à Monsieur T 460 000 euros d'indemnité pour licenciement abusif.
Wow.
Monsieur T, Mr. T, a été débouté de toutes ses demandes et par une cruelle ironie, il est devenu alcoolique et il est mort.
Oh non, mais arrête.
Alors, si ou Mr. T a été condamné pour diffamation car le verre de Lolo Côté fonctionne vraiment et il permet à tous les salariés de partager de bons moments sans ressentir les effets néfastes de l'alcool.
B.
A et C.
B.
C'est dommage, Quentin, pour une fois que vous avez la bonne réponse.
A.
C'était la A toute seule. Bien joué, Quentin. Oui, la cour d'appel de Paris a tranché le 30 janvier 2024, après 10 ans de procédure quand même. Non, on ne peut pas virer quelqu'un sous prétexte qu'il n'est pas fun. Désolé Manon, on va donc devoir garder courade. Défaite du management et victoire de Manon Mariani.
Yes.
Malgré ce début de remontada de Quentin.
Oh, c'était même pas un début.
Sommes-nous tous espionnés par nos patrons? Zoom sur les bossware avec le journaliste Clément Pourret, auteur des nouveaux contremaîtres, enquête sur la surveillance au travail à l'heure de l'IA, paru aux éditions des Équateurs. Clément, il y a un an, la CNIL a sanctionné le logiciel dont vous parliez tout à l'heure, le logiciel Time Doctor. Qu'est-ce qu'il a été reproché à ce logiciel?
Faut deux heures? Non, beaucoup de choses. Time Doctor, ça surveille tout. Faut se dire, ça surveille. Où est-ce que vous cliquez? Ça filme votre écran, ça prend des captures d'écran régulièrement pour vérifier. Ça, on peut allumer les caméras à distance, on peut...
C'est interdit, enfin, en tout cas, illégal.
Qui est illégal à 100%. Et la CNIL dit dans sa décision à 100%. Après, mais c'est toujours c'est un peu la problématique dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'en fait, la CNIL ne va pas contrôler toutes les entreprises. Elle contrôle les entreprises quand les gens disent qu'il y a un problème. C'est vrai pour les bossware, c'est vrai pour les caméras. Un exercice que vous pouvez faire, les caméras dans une boutique, c'est pas censé filmer les postes de travail des gens. Donc c'est censé filmer que là où vous êtes, que la partie qui accueille du public. Allez dans n'importe quel, quand vous allez chez le coiffeur, dans la boulangerie, regardez où sont les caméras et ça vous donnera un petit indicateur du rapport à la légalité.
Comment on peut se rendre compte justement qu'on a un logiciel bossware dans notre ordinateur?
Normalement, l'employeur est censé vous avertir. Donc pas vous directement, mais via le CSE ou dans votre contrat de travail parfois. Donc déjà, premier point, c'est souvent ça, c'est quand même aller voir les représentants du personnel, les syndicats, etc., qui souvent ont des infos. Après, c'est assez difficile, en fait. Et ce qu'on voit même parfois, c'est des salariés qui sont licenciés. Quand on regarde la procédure, les salariés se doutent qu'il y a eu un usage illégal de technologie de surveillance, mais l'entreprise... qui est plutôt réfute. Maligne, va juste pas. Par exemple, elle va dire on vous a vu offrir une bière à quelqu'un alors que vous êtes, serveur ou quelque chose comme ça, et on a vu que vous l'avez pas encaissé. On va pas dire comment, mais on va le dire.
On va dire qu'on l'a vu, quoi.
Et le salarié va dire ah oui, bah oui, c'est vrai, j'ai fait ça.
Et alors, cette surveillance, elle va vraiment trop loin. Vous en parliez tout à l'heure, l'application Daze qui enregistre, enfin qui monitore la nuit, les cycles de sommeil des salariés.
Alors ça, pour se rassurer quand même, c'est pas encore déployé en France, est-ce que je sache. Par contre, oui, mais c'est une vraie tendance en fait qui vient de l'interconnexion entre différents outils de captation de données, parce qu'en fait, des données, on en produit tout le temps. Nos modes connectés, le téléphone, nos réseaux sociaux, les applications de santé, etc. Et on a une tendance quand même, en tout cas, commence à émerger assez massivement, des outils de surveillance qui vont mélanger tout ça et qui vont permettre de connecter le sommeil d'un salarié avec son temps de travail. Quoi.
En France, vous parlez de Thalès. On sait combien ça représente en termes de chiffre d'affaires, ces logiciels d'espion pour l'entreprise?
Non, on ne peut pas savoir. En fait, c'est trop compliqué. D'abord,
ça ne pèse pas. On ne sait pas combien ça pèse à peu près.
Non, parce que c'est un marché très international d'abord. C'est-à-dire qu'il y a quelques entreprises qui vont avoir... Par exemple, Thalès fait pas de la surveillance comme Daze. Hein. Thalès qui fabrique, c'est des outils de gestion d'accès, pour être sûr que c'est les bonnes... pas sur les mêmes enjeux, attention. Mais du coup, c'est très compliqué en fait, d'avoir à la fois un marché, une vision globale du marché, une vision globale de combien d'argent est produit, des bénéfices, et aussi cette difficulté-là, que c'est toujours ce truc-là, c'est est-ce que c'est de la surveillance? Est-ce que c'est du contrôle? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Et il y a beaucoup d'entreprises aussi qui sont entre les deux. Hein.
Eh bien, une donnée dont on n'a pas parlé, une révolution dont on parle souvent dans l'émission, c'est la révolution de l'intelligence artificielle. Est-ce que l'IA va avoir un impact sur les bossware ? C'est-à-dire, va les rendre plus performants ? Qu'est-ce qui va se passer ?
Alors, il faut penser en fait la réponse dans l'autre sens. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, c'est quoi ? C'est une industrie extractive. On extrait de la donnée, des gens, pour produire de l'IA. Donc d'abord, la surveillance, elle précède l'intelligence artificielle. C'est la surveillance qui va permettre l'émergence d'outils d'intelligence artificielle spécifiques au travail. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ce que permet l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est d'analyser tout un tas de données. Ce qu'on faisait avant, c'est... On analysait un petit peu au cas par cas, on faisait attention à certains salariés. Là, maintenant, on est capable d'automatiser, on est capable de prendre toutes les données, d'en tirer des indicateurs de productivité.
Donc pour une entreprise comme Amazon, par exemple, qui est tentaculaire avec des milliers de salariés, c'est ultra... Enfin, c'est ultra
Amazon, c'est, et ça a été prouvé par la CNIL, à n'importe quel moment, si un salarié fait plus de 10 minutes de pause en France.
À n'importe quel moment.
Il est capable de le retracer.
Si les 10 minutes de pause sont dépassées.
Capable de le retracer, de l'analyser, etc. 10 minutes d'inactivité, pardon. Qu'on soit bien clair. C'est-à-dire de moment où vous êtes à la chaîne et vous ne travaillez pas. Ce qui est rarement de votre faute, parce que je ne sais pas si pour les gens qui ont déjà travaillé à la chaîne, on dépend du gars qui est derrière, quoi. Et du gars qui est avant.
Donc. Oui, il peut y avoir un problème technique.
Exactement.
D'accord. Vous écoutez, je suis abasourdi. Abasourdi, pardon. Je vais dire, heureusement que je suis assis. Heureusement. Vous écoutez France Inter, il est 16h46. L'heure d'ouvrir la pièce jointe de Manon Mariani.
Une émission aujourd'hui.
Pour devenir un patron incognito,
j'appréhende.
Ce chef d'entreprise va se grimer comme jamais.
Il faut savoir que mon bureau est à 20 mètres de la manufacture.
N'importe qui peut me reconnaître à n'importe quel moment.
Patron incognito sur M6, une émission manifestement que Quentin adore.
Ah, j'adore.
Diffusée depuis 2012 sur la chaîne et qui s'inspire d'Undercover Boss, la version anglaise. Alors c'est devenu une vraie franchise puisque l'émission est déclinée dans 9 pays quand même. Le principe est simple, un dirigeant d'entreprise se déguise avec une perruque, une fausse moustache, des lunettes, un changement de look, voire même un faux nez. Il doit être absolument méconnaissable pour aller travailler incognito dans sa propre boîte et ne pas se faire repérer par ses employés. Officiellement, il est présenté comme un stagiaire qui participe à un documentaire sur la reconversion professionnelle, parce qu'il faut quand même justifier la présence des caméras. Mais en réalité, il va découvrir la vraie vie de ses salariés, la cadence, les procédures, les tâches répétitives, les règlements, les conditions de travail, des choses qu'il n'a jamais testées lui-même, étant le plus souvent dans son bureau à superviser ses équipes. Ce qui est assez intéressant dans le programme, c'est qu'il s'intéresse à des professions que l'on voit pas souvent dans les médias, des livreurs, des préparateurs de commandes, des hôtesses de caisse, des agents d'entretien, des petites mains qui font évidemment aussi vivre le pays. Alors, son concept est quand même assez cocasse. Il y a forcément eu des scènes cultes ou cringe au choix. Par exemple, le patron qui n'arrive pas à porter des cartons, celui qui ne comprend pas comment fonctionne la caisse, celui qui est obligé de faire un café à son employé, sinon il se fait griller. Évidemment, il y a eu aussi quelques soucis de déguisement, hein, comme une perruque qui s'en va au mauvais moment, ou des employés qui ont reconnu leur boss même grimé et qui en profitent justement pour être exemplaires. Quentin ferait ça, je suis sûre. À la fin de l'émission, c'est toujours assez gnangnan. Le patron est touché par ce qu'il découvre. Il verse une petite larme, offre des récompenses à ses salariés, comme des augmentations, une formation, parfois même un CDI promis sur le plateau. Mais évidemment, cet esprit pseudo-bienveillant suscite aussi beaucoup de critiques. L'émission est accusée d'offrir une vision trop scénarisée et surtout favorable aux entreprises. Des associations souligne que les salariés filmés, souvent précaires, n'ont pas la liberté de parler franchement. Forcément, ils sont entourés de caméras. D'autres disent que c'est une manière de faire assez perverse qui joue sur l'échelle sociale. Des syndicats pointent aussi un problème. Les promesses faites à la fin de l'émission ne sont pas toujours tenues car évidemment, il n'y a pas de suivi après. Le conte de fées vendu face caméra s'arrête quand elles s'éteignent.
Merci Manon, ça me fait penser. Ça fait des mois qu'on se fout de la gueule de Pénélope, notre stagiaire. Si ça se trouve, c'est Adèle Vendrette qui s'est filmée avec une perruque.
Elle faut la même taille.
Elle va tous nous virer.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël, sur France Inter.
Longtemps, on l'a cru atteint d'un mystérieux syndrome neurologique qui l'obligeait à taper très fort sur son clavier. Mais aujourd'hui, à la lumière de cette émission sur les bossware qui enregistre aussi votre keystroke, votre rythme de frappe au clavier, on a enfin compris. Pierre Courade n'est pas malade, il est malin. S'il tape si fort, et on peut même le dire comme un demeuré sur son clavier d'ordi, c'est pour impressionner Cyril qui suit en temps réel son activité. Pierre, il est temps de nous résumer tout ce qu'on s'est dit sur les bossware. Arrêtez de taper en une minute chrono.
On a parlé donc de ces bossware cet après-midi, ces logiciels espions qui permettent aux patrons de contrôler l'activité effective de leurs employés pendant leurs heures de travail. Une sorte d'Adolfo Ramirez informatique, autrement dit, une sorte de Quentin Lui, le pire d'entre nous, surtout au travail.
Il a raconté tout Poitiers.
C'est pas moi. Les bossware sont utilisés aujourd'hui par plus de la moitié des entreprises en France. Ils se sont développés au moment des périodes de confinement liées à la pandémie de Covid. C'est à ce moment-là que des millions de Français ont découvert le télétravail, avec lui les logiciels espions. Pour en parler avec nous, le journaliste spécialiste dans l'univers du numérique, Clément Pourret. Il nous a expliqué que si les ventes de logiciels bossware ont été multipliées par deux ces dernières années, l'idée de contrôler le travail des salariés date des débuts du capitalisme. On est là à la frontière de l'organisation du travail et du flicage des salariés. Le pointage paraît normal. En revanche, faire des captures d'écran de son ordinateur à notre insu pour prouver que vous faites autre chose que votre travail, c'est illégal. Idem si ces logiciels sont installés sur des ordinateurs ou des portables personnels. Mais ce que nous a précisé notre invité, c'est que ces bossware sont surtout là pour pousser le salarié à travailler plus, moins pour trouver un prétexte à sanction. Mais certains frôlent l'illégalité. La CNIL a sanctionné récemment une entreprise qui utilisait un logiciel trop intrusif. Malgré tout, on s'est habitué à ces logiciels. C'est ce qu'on appelle l'effet cliqué. Une fois qu'un produit est suffisamment utilisé, on ne peut plus s'en passer.
Merci beaucoup Pierre et merci également de m'avoir donné toutes ces informations sur ce qui s'est passé à Poitiers.
Je viens de remettre.
On parlait d'Adolfo Ramirez tout à l'heure. Merci beaucoup.
Excusez-moi, est-ce que c'est vrai qu'il vous a envoyé les photos de moi ?
Non.
Non, c'est pas vrai.
Non, mais ça, c'est vrai, je l'ai vu.
Ah non, j'ai pas de photo de vous. Et sinon, je les aurais diffusées sur mon compte Instagram, évidemment, immédiatement avec des commentaires.
Il l'a déjà fait avec d'autres gens.
Marion Mézadorian, plusieurs amis vous ont fait part de leurs expériences en entreprise et télétravail.
Oui, on a tous un pote qui nous a dit « Moi, pendant la pandémie, je demandais à ma femme de bouger la souris pendant que j'étais aux toilettes. » Seulement, la pandémie est passée et on se rend compte que tout le monde a développé sa technique pour faire bouger sa souris. Pour certains, la souris a même développé des facultés de gymnaste, hors norme. Alors la question est évidemment, est-ce que les patrons ont raison de nous fliquer ou au contraire, est-ce qu'ils ne nous laissent même pas le temps d'aller pisser ? Ma meilleure pote m'a dit, hier je suis allée à la pharmacie à 14h03, la pharmacienne m'a dit, vous n'êtes pas en télétravail vous ? Je lui ai dit, je ne savais pas que la pharmacienne était ma N+1. Elle me dit, mais il n'y a pas une caméra qui vous surveille ? Je lui ai dit, je veux bien, comme ça on paiera enfin mes heures sup. Et ma pote m'a dit, et le pire, c'est qu'elle m'a tellement fait peur cette grognasse que maintenant je sais que je vais me pointer à 13h59. Et elle a rajouté, de toute façon moi je m'en fous, mon boss il sait que je l'ai grillé, il ne peut plus rien dire. Il m'a chopé à 10h sur Netflix, il l'a chopé à 9h30 sur YouPorn. Le karma. Bon, ma pote, elle a un super argument, donc elle est tranquille. Mais pour les autres, tout le monde a peur. Même moi, pour cette chronique. J'ai dit à Cyril, je t'envoie mon texte à 14h parce qu'il faut que je modifie un truc, mais là, j'ai pas mon ordi. Et ben, suspicieux comme il est, hein, il m'a écrit, ah bon ? Parce que tu es en colloque d'ordi ? Ça, c'est vrai, ça. Oui. J'ai bien vu qu'il me faisait pas confiance, hein, qu'il m'aurait mis un bossoir au cul direct, hein, comme si j'avais rien écrit. J'avais rien écrit. Mais c'est pas la question. Je finissais une série sur Disney+. Je vais m'imprégner de la thématique. Mais attendez, moi je suis là et le travail est fait. Hein. Et je suis même pas hors sujet grâce à lui. Tu vois Cyril, hein, comme ça peut se retourner quand on cherche à faire des nuisances à ses salariés. Alors par contre, je sais pas qui est le boss de Brigitte Macron, mais la semaine dernière il a fait fort. Hein. Il a amorti le forfait du logiciel bossware en une prise. Elle s'est faite griller direct. Une débutante. Alors on a beau dire que c'était pas pendant ses heures de boulot, mais toute la France s'est quand même dit, c'est dans son cahier des charges, ça. Même les masculinistes se sont dit, c'est vrai que pour une première dame, c'est rock'n'roll, quand même. Il y avait Bernadette Chirac qui pouvait faire la gueule de temps en temps, mais des sales connes, on n'en avait pas, quand même. Hein. Par contre, on pensait pas que ce bossware-là, il aurait lancé un tel merchandising avant les fêtes. Hein. Je savais pas quoi offrir à mes cousines, elles vont toutes finir avec un mug ou un pins, la connasse de l'année. Il y a le tote bag qui est pas mal. Bon, moi je me suis pris le pull sportwear, c'est plus détente pour les soirées raclette. Mais quand je pense qu'à table, à Noël, j'aurai forcément un vieil oncle qui aura mis des bossware sur ses salariés et qui va me dire « Non, moi pour Brigitte, moi j'approuve pas trop ses méthodes. Hein. » Et le lendemain, il sera là en train de vérifier ses caméras. Alors, si les bossware servent à espionner pour soi-disant rétablir l'ordre, moi, je veux bien un bossware pour surveiller mon mec sur son iPhone quand je pars en tournée. Je veux un bossware quand je raccroche avec ma belle-mère pour savoir si vraiment elle adore mes cannellonis et l'écharpe que je lui ai offert. Je veux un bossware pour mon fils de 3 ans qui a eu le temps hier, en 5 minutes top chrono, de dessiner sur tous les murs de sa chambre en vert fluo alors que j'étendais le linge. Je veux un bossware chez mon coiffeur pour savoir quand je pars s'il est bien d'accord avec moi qu'il a foiré ma coupe alors qu'il vient de me dire « mais c'est magnifique, vraiment j'adore ». Et pareil pour mes potes, hein. Je veux un bossware quand je suis la première à partir de soirée et que je sais que dans les 10 minutes qui vont suivre, ça ne servira qu'à commenter et critiquer ce que je suis, ce qu'ils estiment que j'ai raté dans ma vie. Et je le sais, parce que je le fais moi-même quand c'est pas moi qui parle la première. Et enfin, je veux un bossware sur l'ordi de Cyril, mon propre boss. Comme ça, comme ma pote, je serai tranquille à vie. Elle, elle l'a grillé le sien à 9h30, moi je le grillerai peut-être à 11h20. Qui sait, elle m'a dit qu'ils avaient tous leur petit créneau.
Merci beaucoup Marion Messé-Dorian, on vous retrouve très vite dans Zoom Zoom Zen. Merci Clément Pourré de nous avoir expliqué le fonctionnement de ces fameux bossware. Pour aller plus loin, il y a évidemment votre livre, Les Nouveaux Contremaîtres, enquête sur la surveillance au travail à l'heure de l'IA. C'est aux éditions Les Équateurs. Merci d'avoir été avec nous. Zoom Zoom Zen.